Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver, si vous nous rejoignez seulement, et je salue Grégoire Margoton. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec le cinéaste Cédric Lapiche. Canal+ lui consacre ce soir une soirée spéciale, et puis dans les indispensables, un spectacle d'humour absurde et un livre court, poétique et profond. En fin d'émission, le meilleur des portraits inattendus d'Hélène Manarino. Aujourd'hui, ce sera Loudoyon, et Hélène Manarino, c'est tout de suite maintenant. C'est le journal de la culture, bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Journal qui commence par faire un tour du côté des États-Unis.
Les tensions ne cessent de s'accentuer suite à la mort de George Floyd survenue lors d'une interpellation la semaine dernière. Plusieurs personnalités dénoncent le racisme qui persiste aux États-Unis. Certains expriment leur colère, témoignent de cette grave réalité par le biais du cinéma. Et c'est le cas de Spike Lee. Alors il a toujours dénoncé les dérives de la société américaine. Il a décidé de publier une vidéo d'une minute trente sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Three Brothers. Dans cette vidéo, il dresse le parallèle entre son film Do the Right Thing, qui évoque les tensions raciales aux États-Unis, sorti en 1989, la mort d'Eric Garner le 17 juillet 2014, tué par un policier, et George Floyd. Spike Lee pose cette question: est-ce que l'histoire va arrêter de se répéter? La vidéo est devenue virale sur Twitter et l'un des symboles de la lutte contre le racisme.
Et puis on reste aux États-Unis, Hélène. La fermeture des musées américains a engendré d'importantes pertes financières.
Et oui, ce sont des musées principalement privés. Beaucoup ont dû licencier ou mettre le personnel au chômage technique pendant le confinement, comme le MoMA à New York par exemple. Plusieurs aides ont été mises en place fin mars, comme 2200 milliards de dollars à disposition des plus touchés par la pandémie. Mais les musées du pays continuent de perdre au moins 33 millions de dollars par jour. 30% des musées, ceux des petites collectivités rurales, ont failli fermer définitivement.
On revient en France, les librairies sont très touchées évidemment par la crise sanitaire. Nous en parlons souvent ici, Hélène, certaines sont obligées de fermer définitivement.
Et oui, le monde du livre, hein, très impacté par la crise sanitaire, pour les éditeurs, pour les libraires. Alors malgré plusieurs initiatives mises en place pendant le confinement, comme le service de drive, les commandes en ligne, pour certaines librairies, ce n'est pas suffisant. Dans le quartier latin à Paris, 3 librairies ont dû fermer: Bouligny, Picard et Epona, librairie spécialisée dans l'archéologie, et la librairie Mazarine. Les libraires affirment que les librairies sont vouées à fermer les unes après les autres pour laisser place à des restaurants ou des magasins de prêt-à-porter. Plusieurs soutiens se sont mis en place depuis le début de la crise sanitaire pour accompagner justement ces libraires, notamment avec le hashtag « Tous en librairie ».
L'exposition autour de l'un des maîtres du street art, Banksy, vient de rouvrir.
Elle se nomme The World of Banksy. Ça se passe à l'espace Lafayette Drouot à Paris jusqu'au 31 décembre. C'était le succès en 2019. Exposition immersive de 1200 mètres carrés, donc consacrée à cette star du street art. 42 fresques de l'artiste ont été reproduites à l'identique sur les murs de l'exposition. 50 toiles issues de collections privées sont présentes. Alors, événement organisé sans la participation de l'artiste. Ouais. Je rappelle que l'identité de Banksy reste un mystère.
Attends,
quand même.
Ou pas. Peut-être qu'il était là et on ne le savait pas.
Mais c'est ça qui est génial. Ouais, peut-être qu'il est même dans le studio, on ne le sait pas.
Non, il n'y a que Céline Dacosta. Non, il n'est pas là.
Bah, c'est peut-être moi.
C'est peut-être Nicolas Souvent, le réalisateur.
Il a du temps
très
de libre,
populaire.
Alors.
Grâce notamment à ses messages véhiculés dans ses différents dessins, ses œuvres s'arrachent pour plusieurs millions d'euros. Suite à la crise sanitaire, un quota de visiteurs est mis en place, évidemment, pour l'exposition.
J'ai une idée, ça se trouve, Banksy, c'est un des Daft Punk. On passe au cinéma et c'est bientôt le retour des Tuches.
Oui, Philippe, de Jeff et Cathy Tuche, avec un T comme Tuche. Voilà, c'est la petite réplique. Porté par Jean. Oui, bah, je vous donne mes petites références.
Ouais, hein. C'est bien.
Porté par Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, l'affiche très attendue du quatrième volet vient d'être dévoilée. Le film sortira le 9 décembre. Alors, sur l'affiche, vous pouvez voir les différentes chaussettes de Noël accrochées devant la cheminée avec les noms de toute la famille Tuche. Le tournage avait commencé en début d'année. Il s'est arrêté en raison du coronavirus. Olivier Barou, le réalisateur, et Jean-Paul Rouve ont dû réécrire des scènes afin de respecter, évidemment, les règles sanitaires. Ils avaient beaucoup, beaucoup de figurants. Les Tuches 4 parlera de la surconsommation. On suivra également l'affrontement entre Jeff Tuche et son beau-frère.
Et puis on termine en musique avec la chanteuse Björk.
You fall in love, see through the sky. Malheureusement, elle ne viendra pas en France cette année. Elle devait se produire de soir à la scène musicale à Boulogne-Billancourt près de Paris les 17 et 20 juillet prochains. La tournée a été annulée. Elle donne donc rendez-vous à ses fans européens en juin 2021, les 25 et 28 pour la France. Vos billets de cette année sont valables, évidemment, pour l'année prochaine. Lors de cette tournée, la chanteuse Björk reprend donc tout son répertoire accompagné d'un orchestre symphonie.
Ça promet. Merci beaucoup Hélène Manarino. À demain pour un nouveau Journal de la Culture.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, on est très heureux, Philippe, d'accueillir Cédric Clapiche.
Bonjour Cédric Clapiche.
Bonjour.
Plaisir de vous entendre, vous êtes cinéaste, je vais citer Le Péril Jeune, Chacun cherche son chat, qui sert aux gens à apprendre à faire de la radio en prononçant bien, Les Poupées Russes, Casse-tête Chinois, Ce qui nous lie, film très personnel, et le dernier, Deux mois. Moi s'écrit M-O-I, comme le mois freudien. Et justement, ce film sorti à l'automne passe ce soir sur Canal+, Canal qui vous consacre une soirée spéciale, puisqu'après le film, on va voir un documentaire cinéma par Cédric Clapiche. Alors, j'ai vu le documentaire, mais il faut l'expliquer aux gens, c'est à la fois un doc sur vous et un doc par vous. Comment avez-vous travaillé? D'abord, qui a travaillé? C'est vous ou c'est l'équipe de Canal+?
En fait, c'est un réalisateur qui s'appelle Jean-Luc Péréard qui a fait le film. Et on a réfléchi ensemble à, puisque bon, c'était le cinéma selon moi. Ouais. Ce qui était ma définition du cinéma, c'était une façon de donner ma vision de cette chose étrange qu'est le cinéma.
Parce que vous donnez de votre personne, c'est pas seulement comme les documentaires classiques où le type est dans un fauteuil, dans un bel endroit, et il parle de cinéma. Non, on voit vous déplacer, il y a des rencontres.
Oui. C'est fou, ça paraît bizarre en ce moment les rencontres.
Ouais.
J'ai été parler d'une part avec des gens avec qui je travaille, donc Loïc Duris, celui qui fait la musique de tous mes films, Eric Brocherie, celui qui fait mes génériques, et puis Bertrand Blier, il y a un photographe, Harry Gruyert, et un chorégraphe, donc c'est différentes personnes qui soit m'ont influencé, soit avec qui je travaille.
Extraordinaire, ce photographe que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à vous. Vous allez voir Bertrand Blier, vous ne le connaissiez pas, vous êtes assez content, c'est le cinéaste des valseuses, faut-il le préciser. Et alors, la séquence est formidable parce que vous lui demandez des conseils, mais on a l'impression que vous êtes en première année de l'IDEC. pas comme si vous étiez Clapiche, cinéaste confirmé.
Ouais, non, c'est ça qui est agréable en voyant des gens plus confirmés que moi. Moi, c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. J'ai toujours aimé tous ses films.
Ouais.
Et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui, je sais pas combien d'années il a plus que moi, mais disons, c'est quelqu'un que j'ai toujours regardé avec beaucoup d'admiration.
Voilà, et on voit cet exercice d'admiration. Vous êtes chez Blier qui vous fait du café avec sa morgue et son flegme inimitable. Alors, je vais passer qu'un seul extrait. Mais ce sera celui-ci. Ça sera un peu long. Mais si ce n'est pas long, on ne comprend pas. Vous savez, comme disait Paul Valéry, ce qui est simple est forcément faux et ce qui est vrai est incompréhensible. Et alors, ce dont je voudrais qu'on parle, c'est la manière dont vous avez impulsé la musique de vos films. Vous avez travaillé avec un compositeur, un DJ, Loïc Dury, vous venez de le citer. On va vous voir tous les deux. On vous voit tous les deux dans son studio son. Et vous racontez la genèse d'un thème qui, depuis, a été repris partout dans toutes les émissions de télé-réalité, de reportage, dans les JT, dans les émissions culturelles. Pour tout vous dire, ce thème est tellement puissant que, à la limite, c'est comme quand on entend du Verdi dans une pub pour du détergent, limite on n'en peut plus, mais j'ignorais que ça provenait de l'un de vos films, thème magnifique, en l'occurrence il provient de Casse-tête Chinois. On vous écoute devant la console, vous Cédric Clapiche et Loïc Dury.
Au début il y a une guitare qui est enregistrée sans effet, qui a l'air de rien, parce que la guitare originale en fait... pas grand chose, tu vois, elle a pas un son impressionnant. Et puis nous, on la travaille après cette guitare. Donc après, on va mettre des effets par-dessus, ou quoi que ce soit.
Et là, fait voir avec les effets.
Et puis avec les effets, elle va devenir... Donc elle dure, elle est plus affirmée, les trucs, ça rentre à l'intérieur. Toi, t'adorais les breakbeats. J'ai toujours adoré les breakbeats, les breaks de batterie, justement, ce qui vient du rhythm and blues et tout ça. Donc, on cherchait, je me rappelle pour ce morceau, tu m'as dit, je voudrais un breakbeat un peu dégingandé. Et finalement, on a choisi ce breakbeat qui vient d'une cover de Hey Jude des Beatles, fait par un espèce de groupe de Godspell, et c'est juste l'intro, le break de batterie. Là, c'est que le break tout seul. Donc après, on a une contrebasse. Après, on a ce qu'on appelle les fonds de sauce. Ils ont l'air chaotiques, tu vois, mais qui sont pas forts du tout et qui rajoutent beaucoup dans la matière. Ça rend tout beaucoup plus vivant.
Il y a un ukulélé
au début, là. Mais quand tu repasses devant, tu entends pas le ukulélé.
Oui, bien sûr.
Mais tu l'entends quand même.
J'en profite parce que c'est juste magnifique et c'est génial de vous voir travailler, de voir à l'œuvre comment ça se fait. C'est à la fois il est avec vous, à la fois il est autonome et vous travaillez vraiment ensemble. C'est ça l'idée, Cédric Lapiche, si j'ai bien compris.
Oui, il y a tout le temps des allers-retours, donc ça se passe beaucoup au moment de la post-prod, au moment du montage du film, où il a déjà les images et où il conçoit la musique par-dessus. Puis comme vous l'avez compris, c'est le roi du collage, hein. Il ouais. colle des choses les unes avec les autres. Et donc effectivement, c'est un musicien assez particulier parce qu'il a... Il a cette qualité-là, quoi.
Et vous avez suivi le succès de cette musique qu'on entend partout. Je vous le reproche pas, hein. C'est le talent est là. Bah, mais vous
ça,
aussi, vous l'entendez
c'est pas
partout.
Moi, je dirais. Non, oui, mais c'est vrai que là, en fait, c'était dans les Poupées Russes, en fait, où on a fait cette musique qu'on a repris ensuite dans le casse-tête chinois, puisque c'était la suite.
Ouais.
Et dans les Poupées Russes, en fait, c'est le moment où il est en scooter dans les rues de Paris.
Je vois très bien.
Et en fait, on voulait quelque chose qui l'isole un peu dans les rues de Paris. Et en fait, ce petit son de guitare, moi j'adore comment il explique ça, Loïc. Au départ, effectivement, ça ressemble à rien. Et puis ensuite, on travaille dessus. Et puis ça devient quelque chose qui a du corps, quoi.
Exactement. Et je précise qu'avec Nicolas Souvent, le réalisateur, on a enlevé la scène avec, je trouve plus son nom à l'instant, dans les rues de Paris sur son scooter, parce qu'il y avait le bruit
Romain
de la circulation.
Duris.
Romain Duris, pardon. Ouais. Romain en scooter avec son casque pour entendre la chose avec le bon son. Vous restez avec nous parce que j'ai encore une tonne de questions. Je me rends compte qu'on n'a même pas parlé de danse, on n'a même pas parlé de David Hockney, ni de générique, ni d'autres actualités maintenant, Romain Duris.
Ce soir sur Canal Plus.
Cédric Lapiche de
Cédric Lapiche. Ce soir sur Canal Plus, soirée consacrée à notre invité Cédric Lapiche. On continue à en parler avec lui dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Cédric Lapiche qui est notre invité ce matin pour parler de son actualité, Philippe, et notamment de cette soirée qui lui est consacrée sur Canal+.
Oui, il y a le film de moi, puis il y a un documentaire consacré à vous et avec vous. Dans le doc, vous montrez comment vous fabriquez vos génériques, avec l'influence notamment du peintre David Hockney. Également, votre fascination pour la danse contemporaine. Pour quelle raison ça vous fascine à ce point? C'est assez rare pour un cinéaste.
En fait, j'ai toujours aimé la danse. J'ai toujours été voir des spectacles de danse, et puis c'est vrai que je connais ça bien. À l'époque, j'étais très fan de Pina Bausch et je pense que c'est elle qui m'a poussé à voir de plus en plus de choses. J'étais au lycée avec Philippe de Coufflet, pour ceux qui le connaissent. Et donc voilà, j'ai toujours bien aimé la danse contemporaine.
Je veux dire, vous allez faire un film, votre prochain film, si je suis bien informé, vous travaillez sur une histoire qui va se passer dans l'univers de la danse. C'est ça en tant que décor ou la danse comme un personnage du film, si j'ose dire, constitutif de l'histoire?
Oui, disons que c'est sur des personnages qui font de la danse, et donc du coup c'est dans l'univers de la danse, donc c'est vraiment, ça va vraiment parler de ce que les gens connaissent mal, parce que les gens connaissent mal la danse contemporaine,
ouais.
et la danse classique aussi, donc ça va s'immiscer là-dedans, disons.
Ça c'est votre prochain film?
Ouais, justement, donc ce soir il y a 21h, il y a deux mois, et puis à 22h35 je crois, il y a le film de Jean-Luc Perea. Et où je conclue le film en fait en parlant de ce film sur lequel je travaille actuellement.
Et vous avez aussi réalisé un clip très remarqué pendant le confinement, c'était Dire Merci, avec 60 danseurs de l'Opéra de Paris. La vidéo a connu un succès qui vous a totalement dépassé.
C'était incroyable parce que effectivement c'était bon. Voilà, il y a eu plusieurs vidéos pendant ce confinement où chacun essayait de faire ce qu'il pouvait pour aider les gens qui travaillaient. Notamment les soignants, et là avec les danseurs de l'Opéra de Paris, puisque justement j'étais en relation avec certains d'entre eux, on a décidé de faire cette vidéo, et puis en fait elle a fait le tour du monde, elle a été virale sans jeu de mots, donc c'est fou à quel point il y a eu un impact très très fort de cette vidéo, quoi.
Ouais. Vous dites qu'il y a même des gens, des soignants qui regardaient cette vidéo avant d'aller faire une nuit aux urgences. Ce soir, Canal+, on l'a dit, diffuse le film Deux mois. Vous aimez revoir vos anciens films, Cédric Lapiche?
Non, en général je les revois pas.
Ouais.
Non, parfois c'est longtemps après avec mes enfants, ça m'est arrivé, mais c'est pas forcément quelque chose que j'aime faire.
Mais au moins vous allez pouvoir tenir le temps de la bande-annonce, et nous aussi avec grand plaisir.
J'espère.
Bonjour. J'ai un problème de sommeil. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je dors tout le temps.
Je dors pas bien du tout.
Vous vous dites que c'était une vraie rencontre?
Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre?
Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro?
Une dépression?
Peut-être.
Non mais c'est quand même dingue de tomber sur quelqu'un qui a vraiment, vraiment, mais rien à dire. Il a pas parlé pendant une heure. Si, à un moment donné, il m'a dit...
J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi.
L'angoisse? Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir régler le problème. Et en même temps, il est absolument nécessaire d'avoir compris le problème pour pouvoir le régler. Le problème.
Et vous avez le droit d'être heureux.
Vous avez le droit d'être heureuse.
Bah oui, tu vois, hein. Tout arrive.
Ironie de l'histoire, deux mois, ça raconte l'histoire de deux personnages qui sont incarnés par Anna Girardot et François Civil, qui vivent en quelque sorte confinés dans deux appartements collés l'un à l'autre mais sans le savoir. Et vos films habituellement sont toujours très joyeux, très peuplés. Pourquoi vous avez eu envie soudain de parler de solitude et de dépression, Cédric Clapiche?
En fait, j'en avais déjà parlé parce que c'est un film qui est assez proche de Chacun cherche son chat sur la solitude urbaine. Donc ouais. J'ai repris le thème avec le nouveau regard sur les réseaux sociaux et le fait que le monde numérique nous écarte plus. Alors effectivement, aujourd'hui, on parle de confinement, mais là, c'est le confinement de la dépression. Donc c'est des gens qui essayent de sortir d'un moment où ils vont pas bien. Et puis heureusement, ils y arrivent, disons.
Et avec le confinement, on n'a jamais autant vécu avec ses voisins. Est-ce que votre film, vous pensez, peut contribuer à ce que certains et certaines sautent le pas et aillent draguer le voisin ou la voisine de l'immeuble d'à côté? Est-ce que vous avez des retours en ce sens-là?
Oui, non, c'est fou d'ailleurs.
C'est vrai, parce que, alors oui, c'est quoi, je me dis, je vais lui poser cette question, évidemment, il va me dire non. Et vous me dites oui, formidable, allez-y.
Non, parce que pendant le confinement, les gens, ils ont vécu des choses un peu hors du commun. Il y a forcément des choses originales. Et donc les histoires entre voisins, notamment, sont beaucoup sorties. Et puis les gens qui ont vu deux mois en DVD pendant le confinement, bah, du coup, ça leur donnait des idées. Donc c'est drôle les choses que ça a déclenché. Ouais.
Formidable. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Si je ne me trompe pas, il y a un peu plus d'un an, vous annonciez que vous étiez aussi accaparé à l'adaptation de votre film L'Auberge espagnole, mais en série pour Amazon Prime. Où est-ce que ça en est?
Bah justement, pour l'instant, c'est pas encore officiel, donc c'est pas sûr que ça existe. Donc j'en parle pas.
Bah ouais. Si vous le dites, ça sera officiel, parce que je l'ai lu dans un journal.
Oui, mais justement, c'était plutôt une espèce de fuite pas très officielle.
Je veux pas vous mettre dans l'embarras. Ok, c'est pas
donc,
signé.
Voilà, il y a des projets sur lesquels on travaille et puis qui aboutissent pas. Et donc là, je sais pas encore si ça va aboutir.
Je reviens au documentaire. On voit également à la rencontre des gens de la cinéthèque. Je veux dire pourquoi c'est intéressant, puisque en ce moment où les cinémas ont pas vraiment ouvert, raconter ce qu'est la cinéthèque, parce que ça peut être très utile pour plein de gens.
Bah c'est une façon de voir des films en ligne, donc c'est de la VOD ou de la SVOD, c'est-à-dire que soit on s'abonne et on paye 2,99 par mois et on peut voir 10 films par mois, soit on loue des films à l'acte, comme on dit, et donc du coup il y a un catalogue de 1400 films, et les gens peuvent voir ces films-là. Ce qui est particulier à la Cinéthèque, c'est que c'est des films choisis par des réalisateurs. Ouais. Il y a 80 réalisateurs du monde entier, comme Martin Scorsese ou plein de réalisateurs français, Jacques Audiard, Michel Hazanavicius, qui ont choisi leurs 50 films préférés. Et donc c'est ça qui est particulier, c'est que c'est que des films adorés par des réalisateurs. Donc c'est des films intéressants a priori.
Voilà. Quel film il fallait redécouvrir pendant le confinement? Bon, super, j'aurais pas dû poser cette question. Je vous remercie, Cédric Clapiche. J'ai quelque chose, moi, à recommander. Canal qui vous consacre une soirée spéciale. Le film 2 mois MOI. Et puis un doc cinéma par Cédric Clapiche. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci à vous.
À suivre nos indispensables du jour avec au programme une nouvelle idée lecture proposée par Nicolas Carreau et de l'humour avec Louise Bernard. C'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour. On commence avec Nicolas Carreau.
Et avec lui, on va parler de littérature, évidemment. Bonjour Nicolas.
Bonjour Philippe.
Vous nous emmenez au Japon avec Pacifique de Stéphanie Hochet, c'est publié chez Rivage.
Oui, au Japon, mais pas pour faire du tourisme. Ah. Nous sommes en avril 1945. Le jeune Isao Kaneda, 21 ans, raconte « Je noue le hachimaki aux couleurs de notre Japon éternel autour de mon casque. J'effectue ce geste avec lenteur et solennité, sans penser, sans émotion, le froid dans mes veines, le temps s'est arrêté, je suis une fleur de cerisier poussée par le vent. »
Le casque, c'est un kamikaze.
Exactement. Il est censé, après-demain, grimper dans son zéro, son avion, prendre de l'altitude et descendre en piqué pour s'écraser contre un croiseur américain. Il n'a pas vraiment envie, mais bon, la seule occasion où il aurait pu éventuellement refuser, c'est quand un gradé leur a dit ceci. « Ceux d'entre vous qui ne veulent pas donner leur vie pour notre grand empire nippon n'y seront pas forcés. Qu'ils lèvent la main. Ceux qui ne se sentent pas capables d'accepter cet honneur, qu'ils lèvent la main. »
Oh, dis donc, la double injonction. Donc personne ne lève la main.
Ah bah, allons, là,
c'est pervers.
C'est même pas envisageable, tellement ce serait considéré comme un déshonneur. d'honneur. C'est ça ce que raconte ce roman, c'est l'honneur et la culture japonaise si particulière. Avant de le voir monter dans son avion, on assiste à l'éducation d'Isao, flashback dans son enfance, chez sa grand-mère, descendante d'un samouraï, adepte du Bushido, vous savez, le code d'honneur japonais, qui les conduit parfois à se faire seppuku, par exemple, le suicide au sabre. Mais il y apprend aussi la poésie, la littérature occidentale, Shakespeare notamment, et il pratique le kendo, l'escrime japonaise avec des sabres de bambou, un combat très codifié comme le reste. Et là, je viens de vous résumer l'esprit du livre. Stéphanie Hochet explore cette histoire très très particulière du Japon avec cette manière d'appréhender la guerre, donc l'hyperviolence, avec de la poésie. Et on apprend vraiment ce qu'était un kamikaze pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le terme, en fait, veut dire vent divin. Donc, c'est vraiment ce désir d'apporter de la poésie à des actes qui sont des actes guerriers, qui est très impressionnant, qui m'a beaucoup marqué. Et ces vents divins étaient destinés à répondre d'une façon très violente à une guerre qui était en train de se perdre. C'était aussi la preuve, d'une certaine façon, que le Japon avait déjà perdu la guerre. Parce que là, ce sont des bons pilotes qui partent se faire tuer. Le Japon ne pourra jamais gagner la guerre de cette façon-là.
Mais il finit quand même par monter dans son avion.
Quand faut y aller, plein gaz, il y va, pas le choix. Il se dit qu'il sauvera peut-être des vies japonaises. Il essaye de se convaincre de l'efficacité de la méthode, même s'il a de gros doutes, justement grâce à son éducation. Il n'est pas du tout fanatisé. Il décolle, il vole donc vers sa propre mort. Et là, panne de moteur.
Non.
Au-dessus de l'océan. Il ne va quand même pas se cracher dans l'eau, ce serait idiot. Et ce serait un déshonneur d'ailleurs pour sa famille, encore une fois. Alors il se pose sur une petite île et je vous laisse découvrir ce qui lui arrive. Dans ce livre court, 140 pages, intense, poétique et profond.
Ah, c'est formidable. Vous l'avez bien vendu, Nicolas Caro.
C'est mon métier.
Hein ? Et on entend un des disques de votre collection personnelle. Merci beaucoup, Nicolas Caro. À très très vite pour un nouveau roman.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est la suite de nos indispensables du jour, Philippe, avec Louise Bernard.
Bonjour Louise.
Bonjour.
Votre indispensable humour de ce matin est un nouveau venu dans le catalogue d'Amazon Prime Video, mais déjà on le connaît. C'est le deuxième spectacle de Baptiste Le Caplain. Ça s'appelle Origine au pluriel.
Oui, ça commence par une entrée plutôt discrète.
J'ai un peu du mal avec les humoristes qui rentrent sur scène en dansant. Je trouve que c'est un peu une faute professionnelle. Enfin, tu vois, on est humoriste, on est là pour faire des blagues. Enfin, je sais pas, quand tu vas voir les danseurs de l'Opéra de Paris, ils démarrent pas leur ballet en faisant les vannes.
C'est vrai.
Bonsoir. Ouais. Vous savez pourquoi entre nous, les danseurs, on se tutoie? Parce que l'on s'en tutu, on danse pas en boubou.
Ah, disons, ça commence très fort.
Oui, voilà, et là, évidemment, il fait un petit pas de danse. Hein. Ouais. L'univers de Baptiste Le Caplain, c'est tout ce qui me fait le plus rire dans un spectacle d'humour, de l'absurde, du mime, du comique de répétition poussé à l'extrême. Mais c'est aussi tout ce qui est imperceptible en radio et surtout en quelques minutes.
Ah mais oui.
Donc ça va être compliqué de vous diffuser des extraits à la hauteur du spectacle. Il faut vraiment le voir en entier pour constater tout ce talent que possède Baptiste Le Caplain.
Mais quand vous avez quand même des exemples d'humour absurde dont vous parlez.
Oui. Ah. Alors il est capable de faire parler toutes sortes d'animaux déjà. Lion, taupe, zèbre, berger allemand ou encore un saumon, un chat de Périgueux. Certains personnages... Oui, oui. Non mais il faut voir le spectacle. Ouais. Je vous ai dit, c'est difficile comme exercice pour moi ce matin.
C'est
mais ça vaut le coup. Et certains personnages réapparaissent tout au long du spectacle, hein, souvent quand on s'y attend le moins. Et puis parfois, il va encore plus loin. Il fait jouer le fantôme d'Edith Piaf à la PlayStation. Ou encore, il imite un cobra qui se retrouverait assistant de prof de musique.
Donc si la prof de musique veut se faire respecter et veut enseigner correctement la flûte, voilà ce qu'il faut qu'elle fasse. On dirait que je vais faire un tuto, les gars. Calmez-vous. Faut que la prof arrive en cours avec un cobra. Mais un vrai cobra! Comme ont les charmeurs de serpents. Parce que vous avez vu les charmeurs de serpents, ils jouent de la flûte comme ça. Et à côté, le cobra, il fait. Ah, j'aime bien. Qu'est-ce que tu joues, là? J'aime bien.
Voilà, et à l'image, parce que je vous le disais, ouais, c'est très visuel. Il mime le cobra qui se dandine de droite à gauche et il claque des doigts au son de la flûte. Voilà, et plus tard, il va même inventer un remplaçant du cobra qui aurait l'accent marseillais. C'est complètement loufoque, mais ça marche. Hein, il réussit à emporter tout le public dans des fous rires.
Et c'est un spectacle, moi je suis très fan, entièrement fondé sur l'absurde.
Non, non, alors il part très souvent dans de longues digressions et des délires, et c'est ce qui fait vraiment le sel, l'originalité du spectacle. Mais le principe de son one-man show reste assez commun. Raconter son enfance, ses parents, ses premiers amours, sa scolarité et aussi son problème de timidité qu'on a du mal à croire hein, quand on le voit aussi à l'aise sur scène.
Ce qui est chiant quand t'es timide, c'est que t'as vu, tu te fais toujours enfoncer en public par tes proches. Surtout quand t'es petit. Tu vois la scène, genre, tu vois, tu vas dîner chez les amis de tes parents, fais maman, maman, on peut allumer la télé, s'il te plaît? Ah bah, va demander aux gens. Et bah, demande, il n'ose pas demander, il est timide. Mais maman, pourquoi tu fais ça? Bah, il rougit, en plus, je sais pas pourquoi il rougit, c'est fou ça. Pourquoi tu rougis? Arrêtez d'enfoncer les gens timides en public, d'accord? Parce que c'est une maladie. C'est une maladie, la timidité. Et on fait pas ça avec d'autres maladies, je suis désolé. Eh ben, demande une côte de bœuf. Oh, elle n'ose pas demander une côte de bœuf, elle est anorexique.
C'est vrai.
Voilà, alors, si vous cherchez un spectacle qui fait appel à votre intelligence, qui vous pousse à des réflexions profondes sur la vie, sur la politique, passez votre chemin. Il y a plein d'autres humoristes talentueux qui font ça très très bien. Baptiste Le Caplain, c'est la promesse d'un pur divertissement, d'un humour complètement barré, vous en avez eu un aperçu, et qui vous emmène dans un univers qui est proche du cartoon, hein, on l'entend à la voix. Et les meilleurs moments sont presque ceux où il improvise. Il y en a dans la captation du spectacle qui sont à pleurer de rire. Et pour l'avoir déjà vu plusieurs fois sur scène, il en fait toujours beaucoup. Ça donne un spectacle généreux qui ne ressemble à aucun autre. Origine, c'est à voir sur Amazon Prime Video depuis aujourd'hui, ou en VOD. Hein, et allez le voir sur scène, il sera bientôt de retour avec un nouveau spectacle décalé à cause du coronavirus.
Merci beaucoup Louise Bernard, et vous aussi très bientôt de
à
retour.
Bientôt. Dernière partie de Culture Média avec le meilleur des portraits inattendus d'Hélène Manarino, avec aujourd'hui le portrait de Lou Doyon. C'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de notre petit plaisir de fin d'émission, le portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Oui, et puis aujourd'hui, petit plaisir avec la comédienne et surtout musicienne chanteuse Lou Doyon.
Qui se cache véritablement derrière Lou Doyon? Lou Doyon, si j'ai décidé de commencer ce portrait par le générique de Faites Entrer l'Accusé, ce n'est pas parce que vous êtes une serial killeuse, mais parce que vous êtes tout simplement fan de cette émission. C'est votre rituel pour vous endormir, vous êtes incollable sur tous les sujets, vous les regardez plusieurs fois. Et surtout, cette émission vous fait du bien. Ouais. Quand vous êtes déprimé, par exemple, votre remède, ce n'est pas un pot de glace en écoutant du Céline Dion, mais c'est, de manger de la couenne de jambon en regardant Faites Entrer l'Accusé. Parce que oui,
c'est vrai.
Lou Doyon, votre autre addiction, c'est le porc,
oui.
Le bacon, le saucisson, le pâté, les saucisses. Ouais. Vous ne jurez que par ça.
Balance ton porc, Hélène.
Voilà. Et tout le monde se jette surtout sur votre porc effiloché que vous faites à la perfection. Alors, céréale killeuse, non, mais une killeuse en cuisine. Vous êtes une excellente cuisinière, vous avez une fascination pour la cuisine. Vous cuisinez de tout, avec même deux ingrédients, quelles que soient les circonstances. C'est même une sorte de méditation. Et d'ailleurs, vous écoutez des émissions philosophiques pendant la préparation d'un repas. Faire les courses vous recentre et surtout vous aimez acheter des ustensiles. Dernier achat, une planche où des petits bocaux en plastique peuvent s'accrocher pour positionner des aliments. Une planche que vous avez même fait graver à votre nom.
Non, c'est pas vrai. Non.
Qu'est-ce que j'ai fait graver dessus?
On le sait.
Allez-y.
Chez Loulou.
Chez Loulou, voilà. Et votre rêve, vous pouvez le dire ce matin, Lou Doyon, c'est d'ouvrir un restaurant. Et oui, c'est plutôt logique d'ailleurs, puisque le premier mot que vous avez prononcé, c'est le mot beurre.
Ouais.
Alors, votre côté cuisinière va avec votre grande générosité. D'ailleurs, votre filleule vous surnomme Marraine la Fée. Alors, faisons entrer désormais votre passion pour les animaux, enfin les bulldogs. Vous aimez tellement ça que vous suivez tous les comptes Instagram de cette race de chiens. Vous avez aussi été un peu taxidermiste, puisque vous aviez notamment une oie empaillée. Et un jour, vous rentrez tranquillement chez vous, vous découvrez de grandes plumes partout. Vous pensez donc à un cambriolage, logique, mais non, c'était votre chien qui l'avait mangé.
C'est vrai, c'était d'une rare violence.
Lou Doyon, vous avez aussi un lien indéfectible avec le Japon. Vous aimez faire déjà des petites maquettes japonaises de 15 cm, pas plus. Alors plus c'est compliqué, plus vous aimez, ça c'est pour le côté un peu calme. Mais quand il s'agit de faire un concert au Japon, c'est différent. Tokyo, après votre prestation, vous sortez dans un cabaret japonais en pensant boire un verre tranquillement. Et vous vous retrouvez au milieu de danseurs complètement fous, dévêtus. Et l'un d'entre eux vous a tout simplement demandé de tirer sur l'élastique de son slip pour les besoins du spectacle.
Et alors, vous l'avez fait?
Et c'est ce que vous avez fait.
C'était horrible. C'est horrible parce que c'est pire que l'élastique du slip, parce que là, on pense que c'est autour du ventre. C'est très japonais. C'était un élastique relié à ses couilles. Wow. Mais je n'avais pas compris. Et on m'a filé l'élastique et j'ai tiré, tiré, tiré. Tout le monde faisait « Ah, ah, ah !» Donc je tirais de plus en plus, je trouvais ça merveilleux, j'étais ivre morte au sac. Et là, j'ai lâché et d'un coup, j'ai entendu un hurlement. Les lumières se sont éteintes. Et puis quand les lumières se sont rallumées, le pauvre type était violet et dansait un tout petit peu comme ça. Et je l'ai castré.
Parce que vous êtes une bonne joueuse quand même. Loudoyon, incollable et très forte au Time's Up ou au petit bac, sans tricherie, fair play. C'est rare, il faut le souligner quand même. Et joueuse, je dirais même karaokeuse. Eh bien oui, j'invente le terme pour vous, mais vous aimez ça. Mais attention, les karaokés avec des musiciens en live. Ouais. C'est très important et vous êtes incollable, mais incollable sur les paroles de MC Solar.
Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur.
Trop bien.
L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline.
Mais l'hymne de votre vie, c'est ça. Alors comme une vraie rockstar, vous avez des rituels avant de monter sur scène. Il faut que votre loge soit bien rangée, bien propre. Et une fois que c'est bon, vous pouvez fermer la porte et monter sur scène avec vos petits gris-gris dans la poche. Ça aurait pu s'arrêter là, mais vous avez décidé d'aller encore plus loin dans la musique. Et alors, on va tous se préparer à la révélation. J'ai même envie de vous dire, on va se donner la main parce que le contraste peut être violent. En ce moment, Loudoyon, vous vous réveillez avec des musiques dans la tête. Elles vous accompagnent. Et dernièrement, c'est celle-ci.
Loudoyon est morte de rire.
C'était avant-hier, ça m'a fait une angoisse. Je me suis réveillée, souvent j'ai des musiques, mais je sais pas ce que c'est. Et j'ai dit à mon mec, mais qu'est-ce qui t'arrive?
Alors, pas de honte, hein. Vous avez raison. Je rajoute aussi sur le plan artistique que vous êtes une excellente danseuse de Madison, que vous avez appris bien sûr pour les besoins de votre clip, et une très bonne imitatrice de l'accent créole. Vous le faites à la perfection.
Vous avez des doses.
Donc faut nous le faire quand même.
Allez-y.
Ah ben, je suis très gênée, mais c'était quand j'étais plus jeune, donc je peux dire une petite insulte qui est Kounia ma main, ouais. Oula, quel mouvement.
Ça
c'était comme ça. Kounia ma main, c'est une insulte qui a à voir avec la mer en général. Et oula, quel mouvement, ouais, c'est où est-ce qu'on va? Où est le mouvement, boy, en gros.
Mais alors, j'ai beau vous raconter toutes ces histoires, toutes ces anecdotes, je n'ai pas le talent de votre idole. Je ne peux pas rivaliser aujourd'hui. Vous vous endormez donc avec lui tous les soirs. Vous pouvez lui parler parfois. C'est devenu un peu votre moitié. Alors, il est là pour vous, monsieur Christophe Ondelat.
Christophe Ondelat arrive dans ce studio. Vous êtes vraiment fan de Christophe. Vous connaissez déjà ?
Ouais. Ouais. Je lui ai fait très peur après l'Olympia.
Ouais.
Il est venu me voir en concert et quand je suis arrivée en backstage, il y avait plein de gens. D'ailleurs, ma copine Sophie Kahl était extrêmement vexée. Je lui ai à peine dit bonjour et j'ai vu que ça fait... J'étais dans un état, mon père mort de rire, qui le sait,
ouais.
Était là et me faisait des signes pour monter. Mon fils est rentré, s'est arrêté, est devenu blanc.
Ouais.
C'est
ans,
ça,
hein,
ouais. C'est... Ouais. Il est devenu blanc en disant oh, c'est ouais. Christophe. Et on a fait des photos. On a fait des photos ensemble. Et effectivement, c'est très étrange parce que j'ai l'impression qu'on se connaît. Ouais, on se connaît très bien.
Christophe. Ce qui est rigolo, c'est que moi je suis fan d'elle.
Ouais.
C'est-à-dire que je suis allé à son premier concert
oui.
De toute sa carrière.
Ouais, c'est ça,
son premier concert à Paris. Donc, ouais. La Flèche d'Or, on avait réservé 6 mois à l'avance pour avoir les places. Ouais. Donc c'était vraiment...
Ah, par hasard, vous ne connaissiez pas
ouais,
avant.
On ne se connaissait
comme
pas.
Comme fan.
Mais on a un petit point commun, c'est que son mari est basque.
Ouais.
Voilà. Et donc, ça aide au contact aussi.
Ouais.
Et c'est lui qui est l'organisateur de cette rencontre.
Bah. Voilà, et sinon, vous la trouvez comment mentalement? Vous avez connu des cas un peu spéciaux dans votre émission?
Eh ben, en plus, cerise sur le gâteau, moi je suis fan de sa mère depuis tout petit.
Ouais.
Je la suis depuis ses premiers concerts. Je suis un fan absolu de Jane. C'est à peu près la seule
ouais.
Chanteuse dont je peux dire que je suis fan.
D'accord.
Je l'ai vue sur scène, ce qui est quand même assez rare, puisque je l'ai vue dans ses premières scènes, ouais. Alors qu'elle n'avait jamais chanté sur scène.
Non, mais la question voilà. Portait sur l'état mental de Loudoyon.
Tu connais déjà l'état mental de Jane.
Ah. Je viens de comprendre.
Et Jane est délicieusement sautée. Et j'adore ouais. Ça. J'adore ça, moi, en fait. J'aime ce genre de folie. Donc, j'aime Luke comme j'ai aimé Jane, en fait, ouais. Pour la même raison. Elles sont toutes les deux un peu sautées du caisson. Et c'est agréable.
Merci beaucoup Christophe Ondelat, sauté évidemment comme les patates.
Le meilleur des portraits inattendus d'Hélène Manarino, de retour demain dans Culture Média.
Exactement. Merci à tous. Culture Média, c'est terminé. Mais on se retrouve demain, évidemment, à 9h. Nous serons avec Philippe Googler. C'est le présentateur de l'émission Faut pas rêver sur France 3. Et puis l'écrivain, auteur de best-seller Joël Dicker, pour son nouveau roman L'énigme de la chambre 622. Ça vient tout juste de paraître. Alors il est comment? Eh bien, je vous dirai demain. Salut Céline Dacosta. À demain.
À demain, Philippe Vandel. Dans un instant, Anne Romanoff débarque avec toute sa bande et leurs invités aujourd'hui, Nana Mouskouri et Éric Delcourt sur Europe 1.